Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, le modèle américain de la discrimination positive est en passe d'imploser. Et cela après la plainte déposée contre l'université d'Harvard par une association d'étudiants d'origine asiatique qui s'estime lésée par cette politique.
Oui, et paradoxalement discriminée par elle. Le procès s'est ouvert le 15 octobre dernier et Harvard a reçu le soutien d'une douzaine d'universités comme Yale, Princeton ou Brown. Mais le fait est que dans le contexte actuel de guerre idéologique contre les politiques d'affirmative action, il devrait avoir un retentissement qui dépasse largement les milieux universitaires. Dans Le Figaro, Paul May, qui enseigne la science politique à Harvard, analyse la situation créée par cette profonde mise en cause. Les étudiants d'origine asiatique dénoncent une forme de sélection. En dépit de leurs résultats scolaires nettement supérieurs à la moyenne des autres ethnies et qui favoriserait les Africains-Américains, les Latino-Américains et les Natifs-Américains. Il est vrai que, en plus des relevés de notes du lycée et des résultats du test d'admission, les évaluateurs prennent en compte des critères liés au profil général de l'étudiant, comme les activités extra-universitaires, mais aussi l'origine sociale et l'appartenance ethnique. Du coup, même si les Asiatiques américains sont surreprésentés à Harvard, 22% des étudiants admis en première année en 2017, alors qu'ils représentent 6% de la population totale des États-Unis, ils estiment que ce chiffre monterait à 40% si Harvard n'avait pas recours à la discrimination positive et ajoute qu'un candidat américain d'origine asiatique ayant 25% de chances d'être admis à Harvard aurait à compétence égale 35% de chances d'être admis s'il était blanc, 75% s'il était hispanique et 95% s'il était noir. Pour l'universitaire américain, auteur de philosophie du multiculturalisme, cette affaire dévoile au grand jour une fracture latente depuis plusieurs années au sein de la société américaine. Les mesures de discrimination positive destinées à augmenter la proportion de minorités ethniques au sein de l'élite du pays sont vivement contestées, non plus seulement par les conservateurs blancs, mais désormais par des Américains d'origine asiatique, minorité dont la croissance démographique est la plus rapide. Les républicains célèbrent les valeurs d'une minorité dont ils souhaitent reconquérir l'électorat, majoritairement démocrate, éthique du travail, respect de la loi, forte solidarité familiale, et ils tiennent implicitement ce raisonnement essentialiste. Si les Américains d'origine asiatique réussissent mieux, c'est que les moindres performances des Latino-Américains et des Afro-Américains sont dues à des facteurs endogènes plutôt qu'aux discriminations et au racisme de la société américaine. Dans sa diatribe contre la gauche identitaire, Marc Lilla invitait les intellectuels et politiques à s'intéresser davantage aux évangéliques qui représentent 20% des Américains qu'aux transgenres qui sont moins de 0,5% au nom du bien commun. Mais le problème principal, c'est de trouver non pas seulement un terrain de dialogue, mais un langage commun. La dernière livraison de la revue America s'y est employé à la rencontre des born-again qui ont voté à 81% pour le candidat que tout destinait pourtant au purgatoire, et le résultat est terrifiant. La romancière Marilyn Robinson elle-même, alors qu'elle a aussi écrit des essais théologiques et ouvertement chrétiens, n'a pas réussi à trouver ce terrain d'échange avec sa propre mère, obsédée par les relents d'apocalypse diffusés par Fox News, vouée aux gémonies pour avoir voté pour un musulman kényan intégriste, Barack Obama. Elle évoque ce drôle d'effroi salace procuré par la chaîne qui annonce à terme l'instauration de la charia ou la guerre à Noël. Et elle cherche donc désespérément le moyen d'apaiser le ton de nos débats en invoquant l'esprit commun qui devrait les animer. Mais une vision du monde hystérique interdit toute espèce de communion, empêchant ces chrétiens d'honorer leurs propres principes. Car les médias dystopiques de ce christianisme de droite accuserait une forte baisse de leur part de marché si les normes chrétiennes étaient appliquées à leurs propres produits, souligne Marilyn Robinson. Envoyé spécial de la revue America, Philippe Coste a mené l'enquête dans les milieux évangéliques, à commencer par l'invraisemblable musée de la création, tout entier voué à démentir la théorie de l'évolution de Darwin et à rappeler que le monde et ses habitants ont été créés en 6 jours, il y a 6000 ans. Pour ces fidèles égarés au milieu de nulle part, c'est Dieu lui-même qui a placé Donald Trump à la Maison Blanche. Dieu aurait commencé d'ailleurs à voter républicain il y a 48 ans, quand Richard Nixon, en dépit du succès des réformes sociales de Kennedy et Johnson, a réussi à séduire un électorat populaire, les ouvriers catholiques du Nord, les ruraux évangéliques du Sud, en glorifiant leurs valeurs morales. Le décorum biblique de la lutte contre l'empire du mal soviétique a produit des effets durables, et notamment pour subvertir le combat de la laïcité en une lutte manichéenne contre les valeurs chrétiennes.